la matinale de 19h. Le magazine de société de Radio Campus Paris. L'actu engagée.
Un petit village antifasciste vers la Sorbonne.
La culture décalée.
J'ai découvert ces albums et j'ai pété une pile.
Les sujets étudiants.
Pour moi, la démocratie étudiante, elle se fait dans les AG, dans les mobilisations.
Et ce qui se passe en Ile-de-France.
Le but, c'était en fait de préserver les terres agricoles autour de la capitale.
Du lundi au jeudi, de 19h à 20h, sur Internet, sur le DAB+, et sur le 93.9 FM.
10 ans. Cela fait 10 ans aujourd'hui que les attentats les plus meurtriers à avoir frappé la France ont eu lieu. Ce 13 novembre 2015, 132 personnes ont perdu la vie et plus de 400 ont été blessées par les commandos terroristes du Bataclan au Stade de France en passant par les terrasses parisiennes. En tout, ce sont des milliers de vies qui ont été déchirées ce soir-là. Depuis, un indispensable travail collectif de compréhension de cette nuit d'horreur et de ses conséquences s'est mis en place. Il s'est notamment tenu un procès à l'envergure historique devant la cour d'assises de Paris. Pas moins de 148 jours d'audience auront été nécessaires au rendu de son jugement, qui reconnaît comme coupable de tous les chefs d'accusation 19 des 20 accusés et qui a condamné à la perpétuité incompressible le seul membre des commandos terroristes encore en vie. Malgré cela, les nombreux témoignages qui nous parviennent encore aujourd'hui nous montrent bien que la douleur est encore vive et que les plaies sont toujours béantes. Il est donc légitime et même nécessaire de se recueillir toutes et tous ensemble pour affirmer que nous n'oublions pas les victimes et que nous sommes toutes et tous solidaires face aux forces de destruction qui frappent aveuglément des âmes innocentes. Car là est précisément le but de ces actes, instiller le poison de la division et de la peur. Et il faut dire que depuis 10 ans, les discours xénophobes et islamophobes qui stigmatisent les étrangers se sont multipliés, en créant l'amalgame entre leur présence et une sécurité qui serait mise en danger. Sécurité au nom de laquelle il s'agit désormais de céder sans cesse à tous les dispositifs privatifs de liberté, de surveillance de masse, tout aussi délétères pour les droits fondamentaux que la solidarité humaine. En 10 ans, nombre de digues républicaines ont sauté. Les discours ouvertement haineux auparavant réservés à l'extrême droite sont aujourd'hui devenus normaux. Et ce, grâce au renfort de milliardaires qui mènent une bataille culturelle sur tous les fronts, allant jusqu'à infuser les antennes du service public. Ne pas céder face aux terroristes se joue aussi sur ce terrain. Face à l'immonde, il est urgent de nous unir. Résister, c'est ne pas céder aux sirènes de la division. Résister, c'est notamment refuser que des débats islamophobes et discriminatoires en tout genre s'installent sous couvert d'une prétendue laïcité. Résister, c'est s'informer sur la situation matérielle de celles et ceux désignés comme minorités indésirables et potentiellement dangereuses. Résister, c'est veiller à la stricte application de la devise de notre République : liberté, égalité, fraternité. Au programme ce soir dans la matinale, nous recevons Anna Bielic pour parler de la rencontre organisée par Amnesty International Paris qui se tiendra le 27 novembre prochain avec pour intitulé « Serbie, la jeunesse en lutte pour la démocratie », l'occasion pour nous de revenir au fil des questions de l'IA au roi Zampilo sur la situation de ce pays qui connaît depuis plus d'un an un mouvement de lutte de grande ampleur. Ensuite, ce sera le flash info de l'inénarrable Mati Guerraz qui nous tiendra informés des actualités du jour. S'en suivra un zoom de Gauthier qui recevra Capucine Delattre sur son essai 20 minutes sous la terre. Et enfin, Gauthier clôturera cette superbe matinale avec une de ses fameuses chroniques. Quel programme ? Ne perdons pas une minute de plus tout de suite. C'est l'interview du jour.
La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
Voilà un an que la Serbie connaît un fort mouvement social, principalement porté par les étudiants. Ils dénoncent la corruption systémique et réclament plus de justice. Des revendications auxquelles les autorités répondent depuis plusieurs mois par de la répression. Pour en parler, l'ONG Amnesty International Paris organise un débat le 27 novembre prochain au Centre Cerise dans le 2e arrondissement à Paris. Nous recevons aujourd'hui Anna Bielic, de nationalité franco-serbe, qui co-organise cet événement. L'IA roi Zampilo, vous la recevez ce soir, notamment pour comprendre les enjeux de cette mobilisation en Serbie.
Bonsoir Anna Bielic.
Bonsoir, merci pour votre accueil ce soir.
Merci à vous d'être là. J'aimerais qu'on commence en revenant sur l'origine de ce mouvement en Serbie. C'était le 5 novembre 2024 à Novi Sad, la deuxième plus grande ville du pays. Un drame qui s'est produit, c'était le haut vent de la gare qui s'est effondré brusquement. Il a causé la mort de 16 personnes dans sa chute, sauf que ça n'aurait pas dû se produire en fait, puisque le Haut-Vent venait tout juste d'être rénové et donc les étudiants ont aussitôt accusé la corruption. Est-ce que vous pourriez nous dire, parce que c'est peut-être pas évident, quel est le rapport justement ?
Effectivement, donc le 1er novembre 2024, un bloc de béton sur la façade de la gare ferroviaire de Novi Sad, il s'agit de la deuxième ville de mon pays natal, s'est effondré, provoquant la mort de 16 personnes. Cela fait une goutte qui a fait déborder le vase et qui a fait descendre dans la rue des milliers de manifestants parce qu'il s'agit d'un symbole de corruption. Pourquoi ? Parce que avant cet événement tragique, la gare a été rénovée quelques mois auparavant par les entreprises chinoises, hongroises, serbes et par une entreprise française. Aussitôt, on a pensé à des autorisations accordées prématurément, des normes techniques qui n'ont pas été respectées et bien entendu un détournement des fonds assez important. Quelques faits, quelques indices nous amènent à croire que même le président serbe, Aleksandar Vučić, a été directement impliqué dans la gestion malheureuse de cette reconstruction.
Alors vous m'avez parlé d'une goutte d'eau, parce qu'il faut bien comprendre que la corruption est omniprésente dans de nombreuses franges de la société serbe. C'est ça le facteur qui a fait qu'il y a eu cette colère dans le pays tout d'un coup ?
Tout à fait. En fait, depuis 25 ans, on met en place les réformes juridiques parce que le pays souhaite adhérer à l'Union européenne. Malgré cela, la corruption est systémique, omniprésente dans tous les domaines de la société, à commencer par le système de la santé, où vous ne pouvez pas faire vos examens sans avoir une relation ou faire un petit pot au vin, par la justice, l'administration publique et ainsi de suite. Les gens se sentent tout à fait impuissants.
Et en dehors de cette corruption, quelles sont les autres thématiques que défendent, dont s'empare le mouvement étudiant ? Quelles sont les revendications ?
Bien sûr, avec le temps qui passe, ça fait plus d'un an que les gens sont dans la rue, quasi tous les jours. Effectivement, d'autres revendications se sont profilées, à commencer par davantage de justice. Les gens ont soif de la justice, à ce que les règles de droit soient appliquées à tous. Chacun, sans exception. Ils exigent aussi les réformes démocratiques parce qu'avec un système autant corrompu et les élections souvent truquées, on a besoin des élections anticipées, justes et contrôlées de manière satisfaisante, davantage de respect des droits humains, le soutien aux universités, en sorte de confier davantage des moyens financiers pour la recherche, le développement et soutenir les étudiants. Pour ainsi dire, la protection de l'environnement, ça on peut développer davantage plus tard, et la protection du patrimoine de notre pays.
Donc de nombreuses revendications, mais le président serbe, qui est président depuis 2017, Aleksandar Vučić, ne l'entend pas de cette manière. Il a déjà qualifié les étudiants de terroristes.
Tout à fait.
Les accuse même de vouloir créer une guerre civile. Comment est-ce que ces derniers réagissent ? Qu'est-ce qu'ils attendent concrètement du pouvoir ?
La seule chose que les étudiants attendent en ce moment, étant donné que le pouvoir du président est surtout cérémoniel, c'est à ce qu'il décide l'organisation des élections anticipées, parce que ça fait partie de ses compétences. Pour le reste, ils ne considèrent pas compétents. Ils veulent que à la fois la justice soit saisie de manière concrète et que toutes les autres institutions fassent leur travail.
Anna, vous étiez à Belgrade lors des grandes manifestations.
Tout à fait.
Celle du 15 mars 2024 a réuni plusieurs dizaines de milliers de personnes. Oui. Est-ce que vous pourriez nous raconter comment ça s'est passé ?
C'était assez impressionnant. Donc, les chiffres ne sont pas précises, étant donné qu'on dispose des sources de la police et des sources des organisateurs. On estime que près de 300 000 personnes sont venues ce jour-là, donc en mars dernier, manifester contre le pouvoir. C'était assez impressionnant de voir autant de personnes de toutes les générations réunies qui veulent effectivement, qui persévèrent dans leur lutte pour une société meilleure.
Et hormis les manifestations, quels autres modes d'action ont pu être mis en place par les étudiants ?
Donc, toute l'année dernière, la plupart des universités ont été bloquées dans leur travail et physiquement. Donc, les cours n'ont pas eu lieu. Ça a changé depuis parce qu'il faut avancer dans la vie. Les gens ont besoin d'étudier. Donc, ils ont passé des examens en automne dernier, je veux dire en septembre dernier. Donc, à part ça, malheureusement, depuis 12 jours, une des mères des victimes de Novi Sad fait la grève de la faim devant l'Assemblée nationale.
Ok. Et est-ce que d'autres modes d'action plus collectifs, en plus de cette grève de la faim dont vous parlez, est-ce qu'il y a eu d'autres modes d'action qui ont été mis en place ? Est-ce que ça a changé au fil du temps, comme vous le disiez ?
Moi, je dirais que les manifestations restent le moyen principal de lutte. Et en parallèle, les étudiants préparent ces élections anticipées.
D'accord.
Avec la liste des candidats et avec le programme à présenter effectivement aux électeurs.
Il y a quand même eu cet été des blocages sur la voie publique, des barrages qui ont été érigés. Est-ce que ce sont des modes d'action ? Alors vous suivez ça depuis la France, mais est-ce que ça a continué ce type de mise en place ?
À ma connaissance, ça continue plus, mais ce qui se passe principalement, ce qui attire l'attention de nos médias à l'heure actuelle, c'est effectivement la grève de la femme de la dame qui est devenue notre héroïne nationale parce qu'après avoir perdu son fils dans les conditions si tragiques, elle a le courage de, non seulement de faire la grève de la femme, mais de réclamer les élections anticipées.
Alors, les premiers mois de mobilisation, la jeunesse revendiquait des actions pacifistes. Aujourd'hui, le mouvement gagne le reste de la société serbe, vous nous l'avez dit. Est-ce que la mobilisation est toujours non violente ? Je parle bien de la mobilisation, pas encore de la réponse étatique.
La mobilisation reste non violente. Et je tiens aussi à souligner que les étudiants appellent en permanence à maintenir cette lutte dans le mode pacifique. Et c'est une bonne chose parce que on croit que le seul forum de changement reste les institutions, les élections et le travail qui va suivre dans notre Parlement.
D'autant que cette non-violence, elle veut répondre à une sorte de culture de la violence, justement, qui est très présente. Si je dis pas de bêtises, on compte 4 armes pour 10 habitants dans le pays. C'est un des plus armés au monde. Enfin, j'aurais encore une question, mais cette fois-ci, justement, sur la réponse du gouvernement. On a observé que depuis cet été, la répression policière, s'intensifie face au mouvement. Comment ça se traduit concrètement?
Ça se traduit par les arrestations massives, arbitraires. Cet été, j'ai entendu dire, je vis ici à Paris, qu'on descendait de manière propre les gens de bus au milieu de la journée. Il y a eu des étudiantes qui ont été même abusées de manière sexuelle. La dame en question, elle a porté les plaintes. Donc, après, vous avez aussi des invitations, des convocations à des entretiens non formels et toujours arbitraires par l'équivalent de la DGSE serbe.
Oui, sans compter l'usage par la police et par la gendarmerie d'engins pyrotechniques. Bon, les classiques gaz lacrymogènes, matraques, mais aussi des gaz toxiques. Les étudiants ont accusé la police d'utiliser ces produits chimiques dangereux à Novi Sad en septembre, c'est bien
Je le confirme. Et en plus, si on peut revenir aux manifestations du mois de mars 2025, auxquelles j'ai assisté, on allègue aussi l'utilisation de ce qu'on appelle le canon à son. Il s'agit d'une arme interdite dans le monde entier et dont le gouvernement serbe disposerait par des sources inconnues.
Qui se traduit par une espèce d'explosion qu'on ne peut pas voir. Voilà, la foule s'était vraiment scindée en deux.
Oui.
Voilà. Bon. En tout cas, c'est ce qu'on peut savoir des répressions policières pour le moment.
Eh bien, merci à vous deux. Il est l'heure de marquer une petite pause avec la musique du groupe You Rock Missia et son morceau Zamilion Godina, qui est devenu l'hymne officieux du mouvement serbe contre la corruption.
Teška zatvori sve prolaze. Kada dan ko kamen tvrd sruši se sa neba na tvoj nežni dlan. I dok noć u kojoj nema zvezda caruje
u samoći sa svih strana strah te obuzme.
Kada puno jutro osvane u tvojim tužnim mislima, kada kiše jesenje zamagle ti pogled ispred prozora,
jedna ruka traži te i želi da ti da
vodi neprosti za bar.
C'était Zamilion Godina de You Rock Missia.
La matinale de 19h. Le magazine de société de Radio Campus Paris.
Lia Roisin-Pilot, vous êtes toujours en compagnie de Anna Bjelić pour évoquer le mouvement social qui traverse la société serbe.
Anna, vous nous l'avez dit, vous n'êtes pas retournée à Belgrade depuis mars dernier, depuis ces grosses manifestations que nous évoquions tout à l'heure. Par contre, vous avez milité depuis la France, c'est bien ça ?
Tout à fait. Ici à Paris, on milite, on manifeste tous les week-ends depuis janvier 2025 grâce à l'organisation effectuée par un groupe informel qui s'appelle Paris 1152. 1152, c'était l'heure où l'auvent de Novi Sad s'est effondré. Donc nous manifestons devant la résidence de l'ambassadrice de la Serbie, dans une petite rue, sans grande visibilité pour les Français, mais on envoie un signe fort à nos compatriotes via les réseaux sociaux pour leur manifester notre soutien, pour les rappeler que la diaspora est là et qu'on attend les jours meilleurs, on est prêt à les aider.
Et qu'est-ce que vous pensez justement de la couverture médiatique en France ? Vous nous disiez qu'il n'y avait pas beaucoup de visibilité durant vos manifestations. En parlant de visibilité, vous êtes satisfaite de la manière dont les citoyens français sont informés des révoltes en Serbie ? La réponse est dans la question, vous allez me dire.
Oui, on n'est pas très heureux parce qu'effectivement, on trouve que la couverture est sporadique, voire inexistante, à part effectivement le premier anniversaire triste de l'accident de Novi Sad il y a une douzaine de jours, où effectivement on a vu plusieurs reportages à la télévision. Comment expliquer ça ? Tout d'abord par le contexte géopolitique actuel qui est complexe. On a deux conflits majeurs, donc l'Ukraine et le conflit entre le Hamas et Israël, qui a mis à l'écart certainement tout un des conflits à travers le monde. Et j'ose dire par les intérêts économiques de la France dans notre pays. Récemment, la France a vendu plusieurs Rafales à mon pays natal, alors qu'on est un petit pays de 6 millions d'habitants. On ne sait pas trop à quoi ça pourrait servir. La Serbie dispose aussi d'un site avec un haut potentiel d'exploitation de lithium, qui est très important pour toute nouvelle technologie, voire les voitures électriques et la téléphonie mobile, et ainsi de suite.
Il y a également le fait que le président serbe Aleksandar Vučić a été reçu à l'Elysée plusieurs fois. Il a même évoqué, je cite, son ami Emmanuel. Est-ce que c'est cette proximité affichée qui empêche la France de réagir ?
Je pense qu'il s'agit d'une cosmétique élégante pour la presse et pour la population. Derrière, il y a certainement la volonté de la France de soutenir le gouvernement officiel sur la voie de l'adhésion à l'Union européenne. Et malgré tout, un président, aussi mauvais qu'il soit-il, reste un facteur de stabilité dans la région. On a les Chinois et les Russes qui tentent de mettre leurs pattes sur notre pays pour tout un tas de raisons. Donc la France tient pour l'instant aux autorités belgradoises.
Mais il n'y a pas que la France, il y a également l'Union européenne. En avril dernier, il y a même 80 étudiants serbes qui ont pris leur vélo et qui ont pédalé jusque Strasbourg quand même. L'objectif donc, alerter le Parlement européen de leur situation. Mais c'était une déception, le Parlement est resté silencieux. Comment vous l'expliquez à ce niveau-là ?
J'ai pas d'explication précise, mais je vous rappelle qu'il y a quelques semaines, tout de même, le Parlement a fait une déclaration en soutien de ce mouvement citoyen. Donc on espère qu'on va être entendu davantage dans les mois qui viennent.
Mais il a tout de même fallu attendre près d'un an pour avoir cette réponse.
Tout à fait, je suis d'accord avec vous.
Alors il y a tout de même des organisations qui prennent cette mobilisation au sérieux, notamment Amnesty International. L'ONG organise un débat ce jeudi 27 novembre à Paris, dont vous êtes la co-organisatrice. De quoi sera-t-il question ?
On va parler effectivement de l'état des droits humains en Serbie, avec un accent bien entendu sur le mouvement citoyen en place. On a invité plusieurs intervenants, à commencer par Madame Cirilović Teodora, qui est franco-serbe, militante ici à Paris. Par la suite, Madame Otašević, documentaliste et collaboratrice du monde diplomatique. Jean-Renaud Derens, rédacteur en chef du Courrier des Balkans. Un étudiant serbe qui vient spécialement pour l'occasion pour témoigner son expérience de manifestant. Et depuis Belgrade, on va interroger le professeur Miodrag Jovanović, le professeur de la faculté de droit, spécialiste en droits humains.
Il y a donc des intervenants français et serbes. Vous me disiez avant que nous entrions en studio que vous en connaissez certains. Vous avez donc joué un rôle, j'imagine, dans l'organisation.
Oui, tout à fait. Donc j'ai travaillé en étroite collaboration avec le groupe Jaurès de Paris 19e. sur la trame de nos discussions, sur la revue de presse et sur effectivement le choix des intervenants.
Et sur quels critères ces intervenants ont-ils été choisis ?
Sur leurs compétences,
tout simplement.
Tout simplement sur la question serbe.
D'accord. Et est-ce que vous, qu'est-ce que vous attendez d'un événement de ce type ? Est-ce que le but, c'est simplement de faire de la sensibilisation, de mobiliser ? Quel est le message derrière, s'il y en a un ?
On souhaite tout d'abord sortir de ce entre-soi des militants franco-serbes, des militants d'Amnesty, porter davantage de lumière sur la question serbe, éduquer ceux qui seront éventuellement intéressés de venir. En même temps, on a invité la presse et française et serbe, et on essaye aussi de faire venir nos élus pour les sensibiliser davantage à la question des réformes démocratiques dans mon pays natal.
Et vous évoquiez justement la presse serbe. Pour des Français qui nous écoutent et qui voudraient s'informer sur le mouvement plus en profondeur, bon, déjà ils peuvent évidemment assister à ce débat, mais est-ce que vous avez des sources, des ressources éventuellement à leur conseiller ?
Les ressources serbes ou...
Peu importe, mais pour s'informer justement.
Déjà, je vous conseille d'aller sur les pages Instagram, Facebook et LinkedIn d'Amnesty. L'événement est aussi diffusé de manière individuelle par nous-mêmes, par le groupe Paris 1152. Et par la suite, effectivement, on va présenter des reportages et il y aura aussi un enregistrement de l'événement dans son intégralité.
J'aimerais qu'on dézoome un petit peu par rapport à cet événement et qu'on revienne juste sur la manière dont Amnesty, justement, je sais que vous n'en faites pas partie, mais vous êtes proche, traite ce mouvement depuis un moment. Qu'est-ce que vous pouvez dire concernant justement la situation en Serbie et la manière dont elle est couverte par des organisations autres que la presse, les médias ?
Je ne m'estime pas compétente pour répondre de manière précise à cette question. En ce qui concerne Amnesty, il y a eu des efforts faits dans ce sens-là, mais j'ai cru comprendre que Amnesty ne dispose pas de suffisamment de ressources sur le terrain pour enquêter davantage. Donc, en 2024, il y avait un rapport sur l'utilisation des logiciels d'espionnage sur les téléphones mobiles des manifestants, produit par Amnesty. Et récemment, donc, il y a eu un autre reportage sur l'utilisation de chairs à canon à l'occasion des manifestations du 15 mars l'an dernier.
Et par rapport à, vous me citez encore à nouveau, à un outil de répression, on pourrait le qualifier ainsi, le fait qu'il y ait un espionnage téléphonique. Est-ce que vous êtes inquiète en tant que franco-serbe concernant les suites du mouvement ? Enfin, comment est-ce que vous envisagez la suite ?
La suite, personnellement, je ne suis pas inquiète. Je sais que personne n'est à l'abri d'espionnage, si j'ose dire comme ça, dès qu'on a un téléphone portable. Mais je crois fort en réforme qu'on puisse mettre en place à nos élections dans le futur et à la participation de notre diaspora dans ces réformes.
Un message d'espoir donc, si je
toujours
comprends bien.
Toujours. Merci.
Et c'est déjà la fin de cet entretien. Merci Lia Roisin-Pilot et merci à vous. Anna Bielic.
Merci beaucoup.
Pour rappel, vous co-organisez avec Amnesty International un débat sur la Serbie et sa jeunesse en lutte pour la démocratie. Ce sera le 27 novembre au Centre Cerise dans le 2e arrondissement de Paris. Début de la rencontre à 19h30 et c'est sur Entrée Libre.
Le Flash Info de la matinale de 19h.
Et c'est l'heure du Flash Info avec Mati Guéraz.
Merci beaucoup. Fluctuat nec mergitur. En ce 13 novembre 2025, la France commémore jour pour jour les tragiques attentats du 13 novembre 2015 qui ont fauché 135 vies innocentes et blessé plus de 350 personnes. Plusieurs cérémonies ont lieu aujourd'hui, la première à Saint-Denis, aux abords du Stade de France, d'autres dans la journée aux différentes terrasses parisiennes touchées par ces attentats, ainsi qu'au Bataclan. Cette journée de commémoration finit sur une note d'espoir et de musique lors de l'inauguration officielle du jardin mémoriel en hommage aux victimes du 13 novembre, situé à l'arrière de l'hôtel de ville de Paris. Bien que la douleur demeure, Paris est et restera une fête. Diplomatie, l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal a été gracié par le gouvernement algérien. Aucune contrepartie n'aurait été exigée selon le Quai d'Orsay. L'écrivain est arrivé mercredi soir en Allemagne. Il serait actuellement hospitalisé dans un hôpital de la capitale allemande avant son retour en France. Cependant, aucune nouvelle. Journaliste Christophe Glaise, selon Laurent Nounès, pour rappel, le journaliste de Society est détenu en Algérie depuis juin 2025 suite à une condamnation à 7 ans d'emprisonnement par le tribunal de Tizi Ouzou alors qu'il menait une enquête sur le club de foot Jeunesse Sportive de Kabylie. Police, justice, selon une enquête du Canard Enchaîné, Rachida Dati, poursuivie pour recel et abus de confiance dans l'affaire Carlos Ghosn, Renault et Nissan, aurait utilisé, bien que ministre, actuellement en poste, ses privilèges d'ancienne avocate pour que ses frais de défense s'élevant à plus de 300 000 euros soient entièrement payés par le barreau de Paris. Santé au travail, 393 travailleurs d'ArcelorMittal ont été exposés à l'amiante. L'inspection du travail affirme qu'ArcelorMittal était au courant des risques encourus par les plus de 300 travailleurs présents sur le site du chantier du haut fourneau numéro 4 du site. International, Volodymyr Zelensky sanctionne un proche, Timur Mindich. Homme d'affaires influent, responsable d'un vaste réseau de corruption en Ukraine, il s'agit là de la plus grande crise politique que doit affronter le président ukrainien depuis le début de la guerre. Le président ukrainien, lui, reste impartial. Timur Mindich aurait quitté l'Ukraine peu avant une perquisition à son domicile du Bureau national anticorruption d'Ukraine. Budget. Mercredi, l'Assemblée nationale a adopté en première lecture l'article prévoyant la suspension de la réforme des retraites. L'Assemblée nationale n'a pas pu aller au bout de l'examen du budget de la sécurité sociale, puisque le gouvernement, alors qu'il restait encore plus de 260 amendements à examiner, a décidé de recourir à l'article 47 alinéa 1 de la Constitution et de mettre fin aux nouvelles fenêtres de discussion en première lecture. Certains députés à gauche, notamment dans le groupe La France Insoumise, parlent d'un 49-3 déguisé. Le gouvernement aurait, selon la gauche de l'Assemblée, fait exprès de ralentir les débats pour que le texte ne soit pas débattu dans son entièreté. En effet, le texte allant désormais au Sénat, il y a de grandes chances que celui-ci soit entièrement révisé et que les amendements de la gauche soient entièrement vidés de leur substance. Affaire Jeffrey Epstein, 20 000 pages de documents liés à l'affaire Epstein, dont des emails mentionnant le président des États-Unis, ont été publiés mercredi par la Chambre des représentants. Bien que ces emails envoyés par Jeffrey Epstein vers différents destinataires sont assez flous sur la potentielle implication du président américain, on peut y lire que le président actuel aurait été, je cite, « au courant pour les filles » et qu'il serait allé plusieurs fois dans les différentes propriétés de Jeffrey Epstein.
Merci beaucoup Mathie. Maintenant une petite pause musicale avec Don't Preach to Me du groupe The Scollywags.
I'm
C'était The Scollywags et son titre Don't Preach to Me.
La matinale de 19h, Radio Campus Paris.
Et maintenant, c'est l'heure du Zoom avec Gauthier qui reçoit Capucine Delattre.
Bonsoir, bonsoir Théophile.
Bonsoir.
Bonsoir Capucine.
Bonsoir.
Petit préambule, déjà Théophile, est-ce que toi tu as déjà pris le métro ?
Je me déplace principalement à vélo, mais...
Tu as déjà pris, voilà, ça t'est arrivé.
Oui.
Essayez-vous, chers auditeuristes, avez-vous déjà pris le métro ? Oui. Si vous écoutez Radio Campus Paris, alors oui, vous avez déjà pris le métro et vous pouvez peut-être du coup comprendre le livre de notre invité Capucine Delattre. Rebonsoir.
Rebonsoir.
On va se tutoyer.
On va faire ça.
Tu as sorti ton livre 20 minutes sous la terre il y a une semaine, c'est ça ?
Exactement.
C'était jeudi dernier, il me semble.
Vendredi,
bon, à un jour près.
Pour toi, on va pardonner.
Voilà, c'est gentil. Livre qui parle du métro, qui est un sujet qui te passionne depuis des années. Tu en parles beaucoup sur Internet et du coup maintenant, via ce livre, tu es aussi autrice. Tu as écrit trois autres romans auparavant. Le dernier, c'était De son sang aux éditions La Ville Brûle. Et là, on a 20 minutes sous la terre, qui est ton premier essai.
Tout à fait.
Quelle différence est-ce que tu as ressenti de travail entre écrire un roman de fiction et écrire un essai ?
Il fallait sourcer les trucs, il fallait que les arguments ils soient cohérents et surtout je pouvais pas juste poser les questions, il fallait que je donne des réponses et ça c'était très différent. Non, plus sérieusement, c'est vrai que quand j'écris de la fiction, j'ai un peu tendance à improviser et à me perdre dans la zone. Ça c'est pas trop un truc que tu peux faire quand t'écris de la non-fiction parce qu'il faut être notamment véridique et sourcé et cohérent dans ton propos. Enfin très bon, mes romans sont lisibles aussi, hein, mais là il y avait voilà tout ce travail là de rigueur, d'argumentation qui était très différent. Et donc en fait j'ai planifié, j'ai chapitré avant d'écrire et je me suis étonnée en ça parce que je m'étais un peu définie comme quelqu'un qui suivait un peu la vibe. Et là, j'ai chapitré mon truc parce que je savais ce que je voulais raconter. Et donc, j'ai essayé d'articuler ça en 10 chapitres pour arriver à donner à voir le métro tel que j'avais envie de le décrire, de l'analyser, de le proposer.
Donc, comment ça t'est venu, cette volonté déjà de parler du métro dans un livre, a fortiori dans un essai ? Est-ce que c'est parce que t'en avais marre d'expliquer ta passion aux gens qui te demandaient « Ah, c'est bizarre le métro et tout » et tu t'es dit « J'ai un livre sur ça, je peux vous en parler pendant 300 pages. »
Maintenant c'est génial, je vais avoir cette carte de visite et voilà, tenez, lisez ça. Non, alors effectivement, moi je suis très passionnée par le métro depuis toute petite. Enfin, à la base c'était plus une fascination qu'une passion. Et puis ensuite, en fait, en grandissant, en découvrant YouTube et Wikipédia, je me suis rendu compte que ma passion était encore plus passionnante que ce que je pensais. Et c'est vraiment le genre de passion niche, mais pas si niche en réalité, où il y a énormément de contenu, énormément de gens qui sont intéressés, qui ont écrit, tourné plein de choses. Et en fait, plus on se passionne, plus on est passionné, et plus on se passionne, et plus on est passionné. Et donc, je suis vraiment tombée dans le trou du lapin, comme on dit. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, je me disais, mais waouh, c'est tellement à la fois politique, artistique, sociologique, humain, bizarre, poétique, économique, il y a tellement de dimensions, de ramifications. Ça bouillonnait pas mal en moi, et j'étais un peu connue comme la fille de la bande de potes un peu bizarre, c'est celle qui aime les métros. Et puis en fait, un jour, il s'est passé une histoire amusante, qui est que moi, j'avais le projet de me faire tatouer le plan du métro parisien sur le bras depuis un certain temps, parce que c'était ma passion, que c'était un lieu qui avait beaucoup de sens pour moi, et que je trouvais ça chouette de l'avoir contre moi, pour moi. Et j'ai posté ça sur Twitter pour que mes 12 amis puissent le voir et s'en réjouir. Et sauf qu'en fait, ça a un peu cassé Internet. Et je suis passée dans la presse, à la télé, à la radio. Vraiment, ça a beaucoup, beaucoup tourné. Et encore aujourd'hui, on me reconnaît parfois dans la rue sur la base de ce tatouage. Et en fait, au-delà de l'anecdote, en fait, il s'est passé deux choses. C'est que d'une part, je voyais que les gens avaient des réactions extrêmement puissantes vis-à-vis de ce tatouage. Que c'était pas juste « Ah, marrant !» C'était vraiment « Mais elle est complètement dingue !» Ou alors « Mais je la comprends !» Mais alors « Mais c'est dégueulasse, alors mais c'est magnifique !» Et en fait, que ça servait un peu de déclencheur à plein de conversations, prises de position, remémorations sur le métro, qu'en fait, les gens avaient beaucoup, beaucoup, beaucoup à dire sur ce sujet. Et puis, à côté de ça, je voyais qu'effectivement, on avait beaucoup tendance, du coup, à un peu dénigrer ou diminuer ma passion, à en faire une anecdote, quelque chose de rigolo. Et effectivement, ça a un côté un peu incongru. Mais en fait, je me suis rendu compte, et notamment dans mes passages un peu médias, que bah, voilà, c'était un peu haha, lol. Et sauf qu'en fait, j'avais des choses, je me rendais compte que j'avais des choses que j'avais envie de dire au-delà de l'anecdote de ah oui, la folle du métro, elle s'est fait tatouer le métro sur le bras. En fait, moi, ça avait beaucoup de sens pour moi aussi de faire ça, et je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses que j'avais envie d'expliquer sur le métro, potentiellement dans un format un peu plus long et un peu moins hashtag lol. Et quel âge j'ai, hashtag lol, on dirait que j'ai 65 ans, non, je m'afflige. Bref, donc ça a été un peu ça le déclencheur. Et puis après, des discussions avec mes éditrices, me dira si j'avais un essai à écrire, ce serait sur quoi? Ben, ce serait sur le métro. Mais est-ce que vraiment? Est-ce que oui? Et puis bon, ben, j'ai construit mon plan et je me suis dit ok, cool. Et en fait, effectivement, ce qui était génial, c'est qu'en écrivant le livre, je me suis moi-même encore plus passionnée pour le truc. Et effectivement, j'ai trouvé ça chouette dans la mesure où ben, maintenant, c'est un peu. Si jamais j'arrive pas à expliquer, il y a le livre qui existe. Et puis au-delà de ça. Je trouve que c'est un sujet qui est intéressant pour tout le monde sans forcément être passionné, parce qu'en fait ça touche à la ville, ça touche à la société, ça touche au capitalisme, ça touche au travail, ça touche à la routine, ça touche à plein de choses. Et puis par ailleurs, je me disais que bah, potentiellement ça pouvait être chouette aussi d'avoir ce livre-là qui soit lu par d'autres personnes qui ont d'autres passions bizarres et que ces personnes-là se disent « Ok, mais ouais, mais ma passion aussi, elle pourrait faire l'objet d'un essai de 300 pages et elle pourrait intéresser plein de gens et elle a quelque chose d'universel. » Il y a aussi un peu cet appel-là dans le livre à dire « Vous arrêtez pas juste à « Ah, j'aime un truc, c'est un peu bizarre, c'est explore-le à fond et raconte-le aux gens parce qu'en fait, ça concerne bien plus que les passionnés. » Et puis aussi, ce que je trouve très chouette avec la passion du métro, c'est qu'elle propose quelque chose qui, je pense, nous... Peut tous nous servir et peut tous nous faire du bien, c'est-à-dire de réenchanter le banal, de s'intéresser au quotidien, aux trucs qu'on a arrêté d'en regarder, aux trucs qu'on a arrêté d'interroger. Bon, moi c'est tombé sur le métro, mais en fait je pense qu'il y a plein de choses dans nos vies, dans nos quotidiens, qui mériteraient qu'on s'y arrête, qu'on s'y intéresse et qu'on aille creuser sur Wikipédia. Bon, la vie est bien faite, on a tous des passions un peu différentes, donc on se répartit un peu les sujets à creuser sur Wikipédia, parce que si on devait tous devenir experts zinzin du métro, ce serait compliqué. Mais du coup, voilà, je pense que c'est aussi cette invitation-là à s'arrêter sur les choses et à écouter les gens qui se sont arrêtés et qui peuvent peut-être nous emmener dans une petite balade.
Quand tu parles de l'historique du métro dans ton livre 20 minutes sous la terre, tu parles très vite du métro de Londres, qui est le premier métro de Londres et qui a été créé pour être un moyen d'approcher les gens de la banlieue du centre de Londres. Et tu continues directement en disant « Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça. » Est-ce que tu peux expliquer un peu plus
Oui, tout à fait. En fait, j'ouvre un peu le livre sur pourquoi il y a des métros partout. Et alors, je réponds de façon un peu plus sophistiquée avec des adverbes et tout, mais en gros, c'est parce que la société est capitaliste. Pourquoi ? En fait, à la base, le métro, c'était plutôt un idéal social d'un militant socialiste qui constatait que la ville de Londres, milieu du 19e siècle, devenait de moins en moins praticable et de moins en moins accessible aux populations les plus pauvres, qui n'avaient pas de quoi se payer, genre les voitures, mais avec les chevaux à l'époque. Bref. Et donc, il s'est dit, mais attendez, mais ce serait trop bien si on faisait un moyen de transport qui leur permettait de se réapproprier la ville. Et ça pourrait être sous la terre, vu qu'il n'y a plus trop de place ailleurs dans la ville. Et sauf qu'il a rencontré une énorme hostilité pendant 20 ans de la part des autorités. Ils ont même carrément voté une loi à un moment pour dire il n'y aura pas de rail sous la ville. Finalement, ils étaient déterminés à lui briser son rêve. Et puis, en fait, un jour, les promoteurs immobiliers se sont rendus compte que c'était potentiellement un super plan de faire un métro qui allait jusqu'en périphérie de la ville, parce que du coup, ils pouvaient construire des logements où derrière, ils pourraient loger des gens qu'ils feraient venir en centre-ville pour qu'ils y travaillent sans les payer suffisamment pour qu'ils puissent y vivre. Donc, c'était vraiment pour qu'ils puissent y vivre. Donc, c'était vraiment gagnant-gagnant pour eux, juste. Et donc, je raconte l'espèce de retournement de cet idéal social qui est devenu un bon projet capitaliste, avec voilà aussi tout un tas d'histoires d'expulsions de personnes qui ont dû quitter leur domicile et avec plein de combines pour pas qu'ils soient dédommagés, et derrière un métro londonien qui dès sa création était en fait pas du tout financièrement accessible aux plus pauvres, là où le fameux militant qui s'appelait donc Charles Pearson voulait qu'il soit très accessible voire gratuit. Et ironie ultime de l'histoire, le fameux Pearson, il est mort un an avant que le fameux métro londonien soit déployé, donc il aura même pas vu le résultat, et bon, tant mieux vu le prix du métro, comme ça il n'aura pas eu à subir ça. Donc voilà, et c'est aussi pour dire que aujourd'hui on voit vraiment le métro comme le symbole ultime de l'aliénation, un métro boulot dodo, tout ça, mais en soi à la base ça avait été imaginé autrement. Et du coup, pourquoi je raconte ça au début, parce que ça va être un peu la proposition du livre, c'est le métro tel qu'il est et le métro tel qu'il pourrait être, quoi.
Tu parles beaucoup du métro comme un témoin de l'époque à laquelle il a été construit. On peut voir par exemple le métro de Paris. Il y a différentes époques selon les stations, selon les différents prolongements ou à quelle époque ont été construites les stations. Ça fait une sorte d'histoire, de musée de l'histoire de Paris. Tu parles aussi d'un métro idéal. Ce serait quoi pour toi le métro idéal ?
Un métro gratuit déjà. Je pense globalement que habiter la ville, c'est déjà suffisamment cher comme ça et qu'on devrait avoir le droit de s'y déplacer et pas avoir à payer pour travailler. Pour aller travailler, je pense qu'il y a quelque chose à aller creuser là-dedans et que c'est peut-être pas absurde de se dire qu'au lieu de payer des gens à fliquer des passagers, d'ailleurs souvent toujours le même type de passagers, c'est-à-dire des personnes racisées, etc. Peut-être que tout cet argent-là pourrait être mis en place pour financer la gratuité de transport, et ça c'est quelque chose qui... C'est pas juste un don doux rêve de moi qui suis là en mode ah, tout le monde il est gentil. C'est vraiment, il y a eu tout un tas d'études qui montrent que c'est faisable et ça a déjà été fait par exemple sur les réseaux de bus dans d'autres villes. Donc déjà ça pour moi ce serait très important, mais je pense que ça changerait aussi un peu le rapport des gens au métro, qui le subiraient un peu moins et qui le verraient un peu aussi davantage comme le permificateur que c'est, quoi. C'est-à-dire que ça permet de faire plein de choses, ça permet de retrouver les gens plus vite, ça permet de découvrir des endroits, ça permet de se déplacer dans la ville, même si on ne connaît pas la ville. Ça, c'est quand même assez. On en parlait juste avant l'interview, de bon, on arrive dans une ville, on ne sait pas comment elle fonctionne, on ne sait pas quels sont ses différents quartiers, mais pour peu que le plan du métro soit pas trop mal fabriqué, on peut s'approprier la ville et commencer à la découvrir comme ça. Et je pense qu'il y a aussi. Ça serait quelque chose de très accueillant et de très radical, en fait, politiquement aussi, en termes de qui est bienvenu dans la ville. Voilà. Ça, en fait, c'est déjà une bonne réponse. Et puis après, ensuite, le métro idéal, sans angélisme, c'est aussi le métro qu'on arrive à prendre en conscience et pas en le subissant. Et bon, en fait, il y a aussi de ça, c'est que le métro n'est pas entièrement responsable de pourquoi c'est une expérience désagréable à l'heure actuelle. C'est aussi beaucoup lié, encore une fois, à la façon dont on nous force à le prendre, pour aller où, dans quelles conditions, à quelles heures, etc. Donc ce serait aussi, en fait, un métro dans une société qui serait moins formaté et moins dur avec les individus.
Parce que dans ton livre, donc 20 minutes sous la terre, tu parles beaucoup des points positifs du métro qu'on voit pas forcément, mais tu parles aussi des points négatifs. Il y a de la violence dans le métro et tout. C'était important pour toi de pas passer ça sous le tapis, entre guillemets.
Oui, en fait, je voulais vraiment pas faire un bouquin Amélie Poulain, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, regardez le métro, c'est joli. Il y a des choses comme ça. Enfin, il y a vraiment des appels à l'émerveillement, parce que je pense que c'est important, que c'est un truc qu'il faut cultiver, que c'est pas naïf, que c'est une grande force qu'on peut avoir. Pour autant, je voulais vraiment pas du tout créer un truc de carton pâte, de carte postale, qui. Enfin, je voulais que ce soit lucide et politisé, quoi. Et donc, c'était vraiment important pour moi aussi d'aller aux endroits un peu plus sombres. Déjà, ne serait-ce que parce que c'était ce que les gens me disaient spontanément quand ils apprenaient que j'écrivais un livre sur le métro, c'était ah, est-ce que tu vas parler des violences sexuelles? Est-ce que tu vas parler des SDF, quoi? C'était vraiment, tout de suite, c'était ça qui venait. Donc, c'était important d'en parler, donc déjà de la réalité de ça. Et puis aussi de questionner pourquoi automatiquement c'était tout de suite le raccourci qui était fait. Pourquoi est-ce qu'on considère le métro comme un endroit hostile et violent? Est-ce qu'il l'est réellement tant que ça? Est-ce qu'il l'est réellement plus que la surface? Et moi, toute la théorie que je développe, car j'ai des théories, moi. Ça, c'est vraiment très bien d'écrire un essai après, t'es là en mode je suis une théoricienne peut-être.
Essayiste,
oh, j'adore. Il y a une critique où il m'appelle que par mon nom de famille, en mode Delattre, je suis là, oui, je suis Delattre, bref, j'arrête. ce que je développe pas mal, c'est qu'en fait, le métro, c'est pas tant qu'il est plus violent que les autres endroits de la ville, et je m'appuie sur plusieurs trucs pour dire ça, c'est surtout que c'est un endroit qui enferme nos regards et qui nous force à voir. Et qui nous force à être témoins, plus que par exemple la rue ou même le foyer ou le lieu professionnel. Le métro, c'est petit, quoi, c'est exigu, on est coincé. Et du coup, il y a plein de choses qui sont rendues beaucoup plus visibles qu'elles ne le sont à la surface. Et puis également, le métro, c'est sous la terre, c'est un lieu qu'on s'est accordé à considérer comme condamné à rester toujours naze et sale et violent et opprimant, et sans que ça remette en cause nos villes et la façon dont on les structure et notre économie. C'est un peu le bouc émissaire, quoi. C'est un peu ce qui se passe sous la terre reste sous la terre. Et il y a des violences sexuelles dans le métro, c'est le métro, c'est des gens bizarres. Alors non, vraiment, ce sont les mêmes gens qui prennent le métro, qui sont dans la rue, qui sont à votre bureau, qui sont chez vous. Mais bon, il y a un peu ce truc-là de reléguer une forme de violence dans le métro qu'on excuse par la nature souterraine et violente du métro. Et il y a vraiment des choses assez frappantes, notamment journalistiquement parlant, où c'est vraiment parfois le métro qui est rendu coupable par association des violences qui peuvent y avoir lieu. Donc c'est aussi un peu pour dédouaner ce pauvre métro qui pâtit aussi un peu de tout ça. Et parce que c'est pas anodin de mettre l'excuse du métro autour de ces violences-là, notamment les violences sexuelles. En fait, c'est pas le métro qui fait les violences sexuelles, ce sont les hommes. Hein, c'est, voilà. Donc y avait aussi une envie de retirer ce point aveugle-là et de démystifier et de départiculariser ces violences-là. Et pareil pour les SDF, parce qu'en gros, les gens disent « Oh là là, il y a des SDF dans le métro, c'est horrible. » Bah, en fait, ce qui est horrible, c'est qu'il y a des SDF.
Ouais, c'est ça.
Et les gens sont beaucoup à s'émouvoir en disant « Oui, oh là là, les sièges, les bancs dans le métro, maintenant, ils ont mis des barres dessus. Bah, du coup, les SDF, ils peuvent plus dormir dans le métro. » Non, mais le problème, c'est qu'ils doivent dormir dehors. Ouais. C'est ça, le problème. Les bancs sont un problème, du coup, mais fondamentalement, c'est plus qu'on tolère de les voir sous le métro, mais pas... Enfin, voilà.
Quand on termine ton livre, on se dit « Mais de quoi elle n'a pas parlé. On se dit, mais chaque aspect du métro a été dit dans tous les sens, a été essoré dans tout ce qu'on pense du métro. Est-ce que malgré tout ça, il y a des sujets que tu aurais voulu aborder et que tu n'as pas pu aborder par manque de place ?
Alors déjà, vraiment, merci, c'est très gentil, car c'était un peu ma terreur, parce qu'effectivement, en fait, ça touche à énormément de choses. Enfin, on a parlé de design, on a parlé de sociologie, on a parlé de poésie, etc. Vraiment aller dans toutes sortes de sphères. Et le truc qui m'a un peu frustrée, c'est que je me suis dit il y aurait autre chose à faire, mais ce serait genre une thèse, et j'ai déjà une vie compliquée, donc je ne vais pas m'ajouter ça en plus. Mais ce serait vraiment d'analyser toutes les représentations du métro dans l'art et dans la culture, dans le cinéma. C'est-à-dire que j'en parle, du métro au cinéma, du métro en littérature, du métro en chanson, du métro en jeu vidéo aussi. Et je me suis dit, mais la thèse de malade qu'il y aurait à faire sur tout ça, parce qu'à chaque fois que je citais un bouquin, en fait, j'en découvrais 4 autres qui étaient absolument géniaux, et je pouvais partir dans des tartines et des tartines de détails. Et mes éditrices m'ont dit, dose. Donc à la fois, je les comprends, et en même temps, je me dis, cette thèse. Donc voilà, si quelqu'un ici a 5 ans de sa vie à consacrer à regarder des films sur le métro, je l'encourage et le soutiens. Et j'ai toute une bibliographie que je lui ai préparée.
Merci beaucoup, Capucine Delattre. Donc 20 minutes sous la terre, c'est disponible en librairie aux éditions La Ville Brûle. Merci beaucoup.
Mais merci.
Merci à vous deux pour cet échange. Et pour continuer dans le thème, petite musique avec Métro du groupe Téléphone.
Métro, c'est trop.
et c'était Métro du groupe Téléphone.
La matinale de 19h, 93.9 FM.
Et c'est Gauthier qui est encore avec nous pour sa chronique.
Bonsoir, cette semaine ça va être une chronique assez particulière parce que ça va être une chronique culturelle. Et inédit pour moi, je vais parler d'un livre parce que pour le Zoom juste avant j'ai lu un livre entier et ça ne m'était pas arrivé depuis l'an de grâce 2017 avec le journal des faux monnayeurs. Je tiens d'ailleurs à présenter mes excuses les plus sincères à ma professeure de littérature de L3 qui avait bien grillé que je n'avais pas lu Gatsby le Magnifique en m'affublant lors de la distribution des notes au contrôle de lecture, un cruel mais néanmoins réel. La prochaine fois ce serait bien de lire le livre. Ce à quoi j'avais fièrement répondu. Oui, c'est vrai. La personne qui prend donc la place d'André Gide, c'est notre invitée, Capucine Delattre, avec son dernier livre, 20 minutes sous la terre, un livre que j'étais obligé de lire parce que de une, l'autrice est une très bonne amie et suite à cette révélation, je vous invite à aller faire vos signalements sur le site de l'Arcom pour le motif conflit d'intérêts. Mais autre raison, c'est parce que le sujet du livre, c'est le métro. Et le métro, pour moi, c'est une grande histoire d'amour, tellement grande que c'est plus ou moins la raison pour laquelle je me trouve là, devant vous. Dans son livre, Capucine Delattre offre un essai, des pistes de réflexion pour parler du métro sous toutes ses coutures, ou plutôt sous toutes ses vices, mais aussi sous tous ses vices. Elle parle de toutes les idées reçues du métro. Ça pue, c'est moche, il y a des violences, ça fait peur, c'est bondé, il y a des rats, c'est bruyant, etc. Et sans les démentir, elle va nous ouvrir, ou plutôt vous ouvrir, tout un champ des possibles sur ce qu'on remarque ou pas, ou plus dans le métro. Elle parle des côtés positifs du métro, de son histoire extrêmement riche, d'à quel point elle trouve ça beau, impressionnant dans ses détails, des pensées que l'on ressent quand on s'assoit sur un siège, qu'on se prend à réfléchir à qui est la personne à nos côtés, d'où vient-elle, où va-t-elle, travailler, faire ses courses, au théâtre où elle va jouer une comédie musicale le soir même. Ah, elle est descendue. Mais une nouvelle personne vient de prendre sa place. Et elle, alors, qu'est-ce qu'elle écoute dans son casque? Un podcast, du rock, elle regarde peut-être le dernier épisode de Plus belle la vie. Mais au fait, on est beaucoup dans ce métro. Et si l'une des personnes, là, on va se rencontrer dans quelques années, devenir meilleurs amis, est-ce que c'est déjà arrivé même d'avoir croisé maintes et maintes fois une personne dont on ignorait tout pendant des semaines au détour d'un couloir, avant de tomber sur elle dans des circonstances tout autres et de devenir extrêmement proche? Dans le métro, on est toutes et tous des anonymes. Même quand on est plusieurs, on est un groupe anonyme aux yeux des gens. Certaines personnes trouvent ça bizarre, moi je trouve ça beau, parce que ça nous rend libres. Libres d'être ce qu'on veut, de faire croire à qui passera le regard sur nous qu'on est quelqu'un d'important, ou d'embrasser ce rôle d'anonyme et de se faire tout petit, discret. Le métro, c'est un non-lieu, un lieu où l'on existe sans vraiment exister, sans vraiment penser à ce qu'on fait. On attend. Sauf si, comme c'est dit dans le livre, on décide, on essaye de le vivre autrement, en voyant le métro non pas comme une contrainte, mais comme une richesse. D'architecture, d'histoire, de se dire que c'est des millions de personnes se sont succédées depuis plus de 120 ans pour faire fonctionner toute cette machine, de manière quotidienne, que sur le siège sur lequel on est assis, c'est celui-ci même sur lequel s'est retrouvé un type né dans les années 60, quand il a pris le métro pour la première fois, quand il est monté à la capitale un week-end le jour de ses 20 ans, ou bien sur le même siège sur lequel on était assis il y a 15 ans et sur lequel on a pleuré, on a ri, on a appris la meilleure nouvelle de notre vie ou la pire. Je veux terminer cette chronique en disant merci à Capucine, ou carrément merci Charlie, parce qu'en lisant ce livre, j'ai eu la sensation déjà d'entendre de mon ami me parler pendant des heures d'un sujet qui la passionne, les étoiles dans les yeux, ce qui est, d'après des scientifiques renommés, la meilleure sensation du monde, mais aussi de retrouver le temps de quelques heures, le Gauthier de 2019-2020, qui découvrait le métro et qui en faisait peu à peu sa passion, qui s'est un peu estompé avec le temps, évidemment, et bien ce Gauthier-là, je l'ai retrouvé, et ça m'a fait du bien. Merci et bravo.
Et c'est déjà la fin de cette merveilleuse matinale. Merci à nos invités Anna Bielic et Capucine Delattre. Merci aux bénévoles qui ont participé à cette émission, Lia Roisin-Pilot, Mathy Guéraz et Gauthier. Merci à Joé pour la réalisation. Merci évidemment à Jeanne et Aude qui coordonnent la matinale et à l'ensemble de l'équipe de Radio Campus. Et enfin, bien sûr, merci à vous, auditoristes, pour votre fidélité. Tout de suite, c'est Triste Tropique, le nouveau format de Radio Campus sur